En attendant Batimat, le salon des professionnels de la construction du 3 au 6 octobre 2022, porte de Versailles à Paris, une émission animée par Guillaume Loiseau, directeur du salon Batimat.
Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Bâti Radio pour cette toute nouvelle émission en attendant Batimat. Et comme d'habitude, je suis ravi de bien sûr vous retrouver, mais de retrouver également le directeur du salon Batimat, Guillaume Loiseau. Bonjour Guillaume.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va ?
Très bien.
Bon, on a un nouveau très beau sujet après un sujet sur les matériaux, sur la paille, après un sujet sur le photovoltaïque. On va s'intéresser au smart aujourd'hui.
Alors, je préfère vous prévenir d'avance, une heure suffira pas pour traiter ce sujet tellement vous allez voir, Fabrice, il est passionnant. Je sais que la paille et le photovoltaïque vous ont beaucoup passionné ces deux dernières émissions. Mais là, le smart, dans toutes ses dimensions, c'est un sujet qui mériterait plusieurs semaines, je pense. Mais en tout cas, on va essayer de faire un tour d'horizon en une heure. Et c'est pas un sujet totalement neuf. Hein. C'est pas quelque chose qui vient de sortir de terre. Bien au contraire, nos invités nous expliqueront tout cela. En revanche, je pense qu'ils vont nous dire qu'il y a une vraie accélération et surtout beaucoup de potentiel de développement pour le futur.
Voilà. Alors justement, de quoi parle-t-on ? Smart home, smart city, smart building ? Eh bien, le smart est un peu à toutes les sauces, mais en fait, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça correspond, cette notion ? Est-ce que c'est une nouvelle révolution en cours ? Est-ce le quatrième fluide dans les bâtiments après l'électricité, le gaz et l'eau ? Quels sont les enjeux, les contraintes, les coûts, les freins, mais également le potentiel du smart building ? Est-ce une nouvelle façon de penser les bâtiments, une révolution pour les architectes? Et bref, est-ce que cela va réellement changer notre façon et l'usage de nos bâtiments, que ce soit pour le résidentiel, nos maisons, ou pour le tertiaire, notre bureau? Autant de questions que nous allons poser à nos experts. Alors, on est à distance avec Emmanuel François. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous
bonjour.
Êtes le président SBA, Smart Building Alliance for Smart Cities. On va présenter évidemment SBA dans quelques instants. Également à distance avec, pas très loin, mais en tout cas vous connaissez bien et vous travaillez ensemble. Ella Etienne, bonjour Ella.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de Green Solus.
Mais absolument.
Également, vous connaissez bien SBA, vous êtes la vice-présidente et en charge justement de ce pilier Smart City.
Oui, tout à fait. Voilà. Merci pour l'invitation.
Également en plateau, et Guillaume a raison, ça va être foisonnant. François Desgardins, vous êtes secrétaire général de Nexity Entreprise Solutions. Bonjour François.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Et Eric Cassard, bonjour Eric.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Le fondateur et architecte principal d'Arken Spaces, que vous avez créé. Et très très en pointe justement sur tout ce qui est smart building. En tout cas, merci à tous d'avoir pu être là parmi nous, que ce soit en présentiel, comme on dit, en réel, on va dire en vrai, ou à distance, pour ce nouveau numéro d'En attendant Batimat. Alors, on va demander tout de suite à Emmanuel François, je le disais, comment on introduit, comment on pourrait définir ce que c'est que le smart ? Parce que, je le disais, on le met un petit peu à toutes les sauces. En quelques mots, comment on peut résumer Emmanuel François ?
Bon, c'est pas simple, vous me prenez un peu comme ça dépourvu, mais je dirais le smart, c'est une nouvelle dimension qui s'invite dans notre vie, dans notre société, et qui permet d'avoir une vision transversale, c'est-à-dire plus en silo, de manière totalement multi-silo, multi-filière, multi-verticale, et qui permet d'agir en temps réel de manière déportée. D'avoir donc, en fait, quand je vous dis, c'est une nouvelle dimension, c'est ce qu'on appelle la dimension virtuelle. C'est votre compte Facebook, c'est votre voilà. Et en fait, ça, les conséquences sont fondamentales, sont énormes. Et aujourd'hui, moi, je dis, c'est une mutation de civilisation, mutation civilisationnelle, comme on n'en a jamais connu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une mutation qui touche les activités humaines elles-mêmes. Mmh. On ne vit plus pareil. On ne va plus travailler. Merci pareil, on va plus se loger pareil. Et on peut, par exemple, utiliser des espaces, les réserver sur une période donnée avec une certaine traçabilité. Et ça veut dire qu'en fait, alors qu'on était dans l'ère de la propriété, où on avait des espaces qui nous appartenaient, on va rentrer dans une ère de l'usage, décorrélée de la propriété, pour une optimisation de ces espaces ou une optimisation de la mobilité. Et je pense que Eric Cassard en parlera très bien. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a cette infrastructure numérique qu'il devient le quatrième fluide, comme vous l'avez dit. Et il faut s'attendre, faut vraiment savoir ce que ça veut dire, le quatrième fluide, et comment c'est organisé, comment c'est structuré, comment on récupère toutes ces données.
D'accord. Alors, c'est vrai qu'on est rentré rapidement dans le vif du sujet, déjà beaucoup d'informations. Est-ce qu'on peut dire quand même, Emmanuel, que ça tourne autour de l'essor du numérique? C'est quelque chose dont on parlait quand même pas il y a encore, j'ai l'impression, 10, 15 ans, 20 ans. Ça va de pair avec l'augmentation de la donnée, de tout ce qui est partage, réseau numérique.
Tout à fait. C'est quelque chose d'extraordinaire quelque part. Je pense qu'on vit une révolution que l'humanité n'a rarement connue. Ça a commencé en 1994 et aujourd'hui, en fait, l'Internet, c'est pratiquement la dernière chose dont on pourra se passer. Alors que ça n'a que quelques années. C'est quelque chose d'incroyable. Et aujourd'hui, effectivement, on assiste à une inondation de données, parce qu'effectivement, c'est énormément de données et il faut les gérer parce qu'en fait, à partir de ces données, on va pouvoir bâtir des services autour de nouveaux usages.
Très bien. Bon, on va les découvrir petit à petit. On va faire déjà un premier tour de table. On continue avec François Desgardins. François, voilà, en commentaire, déjà, expliquez-nous pour vous, alors on reprécise, hein, vous êtes chez Nexity, ce que ça représente. Et comment vous utilisez aujourd'hui cette nouvelle donne?
Alors, sans faire un cours magistral sur le digital, en réalité, la transformation digitale, la transformation numérique, elle est présente depuis bien longtemps. À Internet, on est dans les années 90. Je pense que le sujet un peu particulier du secteur de l'immobilier, c'est qu'on a longtemps considéré qu'on faisait des objets uniques. De fait, on avait tendance à penser collectivement, hein, tous les corps de métier, de l'architecte à celui qui va gérer le bâtiment, qu'on aurait du mal à répliquer un certain nombre de méthodes de travail dans notre segment. Ce qui n'était pas le cas, notamment chez les industriels. Aujourd'hui, ça fait bien longtemps que quand Dassault fait un avion, il a une maquette numérique de son avion et il a en trois dimensions toutes les pièces et il est en capacité d'interagir sur ce qu'il fait. Mais lui, il a le même objet qui va vendre un certain nombre de fois. Nous, les gens de l'immobilier au sens très large, les bâtisseurs et tous les corps de métier, on fait des objets uniques. Je pense que peut-être que pendant longtemps, trop longtemps, ça nous a excusés de faire rentrer le numérique dans ce qu'on faisait. Alors, les choses sont en train de changer, on l'a dit, hein, Emmanuel l'a bien expliqué, et puis de manière massive. Effectivement, on a la colonne vertébrale du bâtiment qui doit s'équiper de ce fameux réseau, quatrième réseau, qui va aller compléter l'eau, l'électricité, le chauffage, qui est le réseau numérique, la data, la capacité à effectivement travailler cette data. On va avoir des objets connectés, ce qu'on appelle l'IoT, Internet des objets, qui va ouvrir un certain nombre de débouchés. On a des plateformes dites d'hypervision qui vont être en capacité de rendre transparente la donnée qu'on a récupérée, avec toutes les questions que ça peut poser de propriété de la donnée. Voilà. Enfin, donc c'est une vaste vague qui est en train de déferler. Et puis on en a un peu parlé, mais finalement, assez rapidement, elle s'éloigne du bâtiment pour envahir toute la ville, puisqu'en réalité, on voit bien que il y a des logiques territoriales d'aménagement qui font qu'on peut penser des quartiers connectés. Avec tous les écueils qu'on peut y trouver, et notamment ce qu'on a pu voir à Toronto de ce qu'ont fait nos amis de Google. Donc il faut qu'on trouve une voie européenne sur adapter ce modèle numérique à notre culture européenne.
Ouais, on va voir justement que ça pose un certain nombre d'enjeux, notamment au niveau des data, de la protection, et l'Europe en particulier est très sensible à ces données. Ella Etienne, vous êtes avec nous, la patronne directrice générale de Green Solus. Tiens, un petit mot, Green Solus, qu'est-ce que c'est ?
Alors nous, on est un acteur hybride d'un nouveau genre dans l'écosystème. On mêle conseil et accompagnement et solutions digitales pour accompagner au mieux les acteurs privés et publics à enclencher la transition environnementale. Et on croit beaucoup à la puissance du digital justement pour y arriver. C'est ce qui fait aussi notre caractère distinctif, c'est la réconciliation du smart et du green, et c'est aussi l'une des convictions fortes que porte la SBA. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Juste pour rebondir sur votre question initiale que je trouve intéressante sur la définition du smart, et là je ne peux qu'abonder dans le sens d'Emmanuel et de ce que François Desgardins vient de décrire. La transversalité, c'est une approche globale et intégrée des projets. Et je pense que ce qui est important aussi d'avoir à l'esprit, c'est qu'une démarche smart, c'est une démarche utile pour l'utilisateur citoyen citadin à tous les échelons, à l'échelon bâtiment, à l'échelon quartier, à l'échelon ville, à l'échelon territoire. Et aujourd'hui, des projets comme celui de Toronto qui a été mentionné, on a peut-être oublié un petit peu le pourquoi derrière les projets. Donc c'est une chose d'avoir beaucoup de données. C'est une autre de se poser la question du pourquoi de la donnée et ensuite de la question de la gestion. Et dans la réflexion autour du smart, on est passé d'un ensemble de possibilités techniques à un potentiel. Et c'est ce potentiel-là sur lequel capitaliser en remettant du sens au cœur des démarches entreprises en matière de smart.
Pardonnez-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait à Toronto ?
En fait,
Je vais laisser François Desgardins répondre. Ouais, allez-y.
Google a acheté des emprises foncières en passant un deal avec la ville de Toronto et au fur et à mesure, il a essayé d'en faire le démonstrateur de ces technologies. Le problème, c'est que c'était du Google du sol au plancher et avec effectivement une logique de captation de data dans des grands univers, on va dire, où Google monitorait toute la data de tous les individus, de toutes les voitures, de tous les lampadaires, etc.
Donc tout un quartier finalement.
De tout un quartier, d'accord. Voire plus ça allait, plus il s'étendait. C'était presque une petite ville.
Un vrai projet de société.
Exactement. et voilà, et donc. En soi, pas forcément une mauvaise idée. La vraie question, c'est comment on la réalise. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a une voie à trouver européenne. C'est finalement comment je garantis aux citoyens la protection de leurs données, le fait qu'ils ont le droit à l'oubli, etc. Enfin, voilà, il y a énormément de pans à traiter sur ces thématiques-là pour ramener le citoyen au cœur de cette démarche. Et je pense, voilà, on est tous convaincus ici que ce qui compte le plus, c'est l'usage. Est-ce que cette technologie, elle est à notre service ou est-ce qu'on en est les esclaves ? Si c'est pour en être les esclaves, honnêtement, ne faisons rien.
Éric Cassard, architecte, donc fondateur d'Arcane Spaces, pour vous, on ne va plus concevoir les bâtiments comme avant ?
Non, plus du tout. Plus du tout. On devrait déjà maintenant ne plus les concevoir comme avant. Parce que, Emmanuel l'a dit, pour moi, le numérique, c'est vraiment des dimensions, et dimensions spatiales complémentaires. Mmh. C'est-à-dire que ça change le rapport des liens, des espaces entre eux. En fait, vous avez fait les premières émissions sur... souvent, on parle de bâtiment, on pense au mur, on pense à la matière, on pense à tout ça. Mais il y a aussi tout l'immatériel. L'immatériel, c'est comment l'espace est connecté avec un autre espace. Aujourd'hui, les espaces, ils sont connectés ensemble par des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Demain, ils vont se connecter à dans d'autres dimensions. Et ils vont se connecter d'espace à espace, mais aussi d'espace à individu, d'espace à information. Et ça, ça change tous les possibles. Et en fait, ça ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibles. Ça crée des liens. C'est en ce sens-là que ça peut être utilisé et que c'est vraiment... écologique. Enfin, en tout cas, que ça peut être utilisé de manière écologique. L'écologie, c'est des liens avec un milieu. Un bâtiment qui est smart, il va créer plus de liens avec d'autres espaces, avec la ville, avec les habitants. S'il est bien conçu, c'est ça. Et créant plus de liens, il va aussi pouvoir être mieux utilisé. Vous avez des couches, comme s'il y avait des couches complémentaires qui vont aider à son utilisation. Et n'oublions pas que si vous prenez un bâtiment de bureau aujourd'hui, il est quoi ? Et il fonctionne peut-être de 8h à 20h, enfin peu importe. Mmh. Vous voyez qu'il va fonctionner moins de 50% du temps, il est vide. Moins de 50% du temps, il est vide. Et donc l'enjeu demain, c'est peut-être au lieu de construire 3 bâtiments de bureau, j'en construis que 2. Grâce au smart, avec les 2, je peux faire ce que je faisais avec les 3 avant.
Alors, donnez-nous un exemple. Comment on pourrait utiliser ? Tiens, on rentre dans le vif du sujet, mais il faut aussi pratiquement toucher du doigt. Qu'est-ce que ça pourrait être ? C'est un bureau qui se transforme, qui peut être utilisé hors du bureau, justement ?
Oui, il pourrait être utilisé hors du bureau. Le week-end, qu'est-ce qu'on peut faire de ces espaces ? Mais alors, ça demande de les penser différemment. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des notions qui sont très anthropologiques d'appropriation d'un espace, qui sont des notions de... privacy, je peux pas traverser un espace privé dans lequel je laisse certains objets, mais il y a une partie des espaces qui vont pouvoir être mieux utilisés dans le temps. En fait, disons que c'est un passage d'une réflexion. J'aime bien dire qu'avant, ou encore aujourd'hui, l'architecte, il ordonne des espaces, et demain, il va toujours ordonner ses espaces, mais il va surtout coordonner des espaces-temps. Et pour coordonner des espaces-temps, on a un outil qui est formidable, qui reste un outil, le digital est un outil, mais cet outil va nous permettre de mieux coordonner ces espaces. J'ai bien aimé ce qui a été dit. Il y a un architecte, Cédric Price, qui disait, il y a de ça bien 20-30 ans, « Technology is a solution, but what is the question ?» Et aujourd'hui, les questions, pourquoi utiliser le smart ? Les questions, elles sont d'abord écologiques, c'est-à-dire les bilans carbone et de façon à mieux utiliser les choses. Et puis ensuite, c'est mieux vivre dans nos villes et dans nos métropoles où nos espaces sont de plus en plus petits et coûtent de plus en plus cher.
On a fait un premier tour de table, Guillaume Loiseau. On voit que c'est le sujet.
Je vous avais prévenu.
Oui, c'est vaste. C'est vaste, c'est passionnant. Qu'est-ce que ça vous inspire justement quand on voit ça et quel est le lien aussi par rapport au salon qui aura lieu ? Parce qu'on imagine qu'il y a plein d'acteurs et de plus en plus. Il y en aura de plus en plus. On a l'impression quand même une révolution en marche. On va retrouver tous ces acteurs sur Batimat ou une partie ?
Alors, plusieurs questions. Que vous abordez. La première, moi, tout ce qui vient d'être dit, ce que ça m'inspire, c'est que ce sujet qu'on appelle encore smart, mais peut-être un nouveau mot arrivera dans quelques temps. Avant, ça s'appelait GTB, donc c'était une autre époque.
C'est quoi GTB ?
Gestion technique des bâtiments.
Ah, d'accord.
Donc
c'est plus smart de dire smart.
Ah, ça commence à faire un peu old school de dire
c'est smart. C'est has-been,
certains disent ça, oui. Bon, peu importe sur les éléments de langage, en fait, ce champ d'opportunité, tout ce qui vient d'être dit par nos invités, est probablement le sujet le plus humain qu'on ait devant nous. Parce qu'en fait, tout ce qui est smart, il y a plein de définitions possibles du smart. Moi, j'en suggérerais une, c'est une infrastructure et des usages. Et donc, dès qu'on parle d'usage, on parle des hommes et des femmes qui habitent ou qui travaillent dans un lieu ou qui viennent se divertir, peu importe la destination et l'usage final du bâtiment. Donc ça change tout. Et probablement, mais ça, Emmanuel, qui a peut-être tout l'historique de l'évolution de la maturité de ce secteur, c'est assez récent, en fait, le fait d'aborder le sujet avec l'humain d'abord. Comme vous disiez, what is the question, en fait. En tout cas, je pense que c'est assez nouveau. Et on voit bien, en fait, que ça touche quasiment toute la société. C'est quoi le projet de vie d'un quartier ? Donc, il y a la privacy, mais il y a plein d'autres sujets. Donc, c'est ce qui rend le sujet très passionnant, parce qu'on est tous concernés. On est dans un bâtiment qui est connecté, ici. C'est un espace, on appelle ça coworking. Donc, il y a des nouvelles fonctionnalités qui n'existaient pas entre 5 et 10 ans, en tout cas ici à Paris. Donc tout ça change, évolue beaucoup. Et plus ces bâtiments seront connectés en termes d'infrastructures propres, le domicile, la maison ou l'appartement, le bureau ou le lieu où on travaille, il y a un objet qui nous transporte de l'un à l'autre à fréquence assez fixe le matin et le soir. C'est de la mobilité, j'allais dire voiture. Peu importe la génération dont on parle, mais en tout cas, et donc ce véhicule en fait va devenir la partie mobile de la maison ou de l'appartement et du bâtiment non résidentiel dans lequel on a une activité professionnelle. Voilà, donc ça change tout et ça va être un continuum d'expérience. Mmh. Je pense qu'on se souvient pas bien des premiers smartphones et ce qu'on a découvert en termes de nouvelles expériences à ce moment-là. Ça nous paraît tellement banal aujourd'hui qu'on a l'impression que ça a toujours existé. On a oublié la découverte en fait. Quand ces innovations sont arrivées, mais on va vivre la même chose dans les bâtiments. Donc c'est assez fou. Alors évidemment, avec plein de freins, et puis pour de bonnes raisons, des inquiétudes aussi.
Alors justement, n'hésitez pas, on va quand même laisser, on est ici en plateau, mais aussi avec nos invités à distance. C'est vrai que c'est intéressant de faire cette analogie avec les smartphones, parce que le smartphone, finalement, aujourd'hui, il y a deux grands acteurs. On a le choix entre le smartphone à la pomme et le smartphone avec le petit robot. Et puis, voilà, on a un univers applicatif qui est proposé, mais c'est assez standard. Et on a l'impression, Emmanuel François, qu'aujourd'hui, et je pense que la SBF, vous allez nous dire où vous en êtes, qu'il faut aujourd'hui créer justement ce cadre des références parce qu'on n'est pas sur un ou deux opérateurs, on est sur des dizaines de milliers d'opérateurs, et ce, dans le monde entier.
Alors, c'est clair, oui. En fait, on l'a évoqué, on a une multitude de données, et ces données, elles convergent vers un operating system. C'est l'operating system du bâtiment, l'operating system du quartier. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il existe aujourd'hui cet operating system ? Enfin non, il n'existe pas encore, mais il est en construction. Et ce qu'on veut éviter à la SBA, c'est qu'en fait, cet operating system, ça soit entre guillemets, excusez-moi, le Google Maps du bâtiment et de la ville intelligente, et que ça soit un seul operating system universel qui appartienne à un acteur privé. C'est hors de question. C'est pas possible. Parce que, comme l'a dit Guillaume, il y a un enjeu humain et un enjeu éthique. C'est en fait l'enjeu de la cybersécurité et surtout de la gouvernance des données. Effectivement, ces données, elles appartiennent à l'humain. Elles sont au service de l'humain et j'ajoute au service de la planète. Et donc, c'est là où effectivement, il ne faut pas qu'on soit dans ces films de James Bond où d'un seul coup, il y avait un acteur qui voulait contrôler le monde et puis quitter la planète parce qu'en fait, voilà, c'était le chaos. Ben ça, c'est pas du tout, c'est hors de question. Et pour ça, effectivement, il faut qu'il y ait un cadre de confiance, qui soit un cadre de confiance partagé par tous les acteurs.
Mais alors justement, et c'est fondamental. Vous travaillez là-dessus, justement, à la SBA, c'est ça, c'est créer, comme je disais, des référentiels, vous travaillez sur des normes, finalement, que la profession ou les professions pourraient utiliser demain.
On travaille sur des normes, je dirais plutôt des méthodologies. Méthodologies sur comment on va collecter ces données, comment on va les stocker, comment on va les exploiter. Mais effectivement, on peut appeler ça des normes. L'objectif, c'est qu'on arrive à que le cadre de référence R2S devienne un pseudo-standard pour les bâtiments et l'intelligence. Et je dirais qu'aujourd'hui, on n'est pas loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est Villa France. C'est notre esprit un peu avant-gardiste. Sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Eh bien là aussi, on a été avant-gardiste. Et on s'est dit, il faut maîtriser ce sujet. Et pour le maîtriser, il faut mettre tous les acteurs de toutes les filières ensemble pour repenser le bâtiment, la ville, les services autour de cette donnée. Et on n'est pas loin. Et ce cadre de référence R2S, aujourd'hui, devient un pseudo-standard en France, mais aussi été cité à la Commission européenne et même dans d'autres pays européens. Ou internationaux plutôt.
François Desgardins, là justement, vous aussi vous êtes confronté à ça. Alors vous êtes un des acteurs justement avec Nexity qui est en pointe sur le sujet. Mais j'imagine que rapidement on se confronte à cette multitude de partenaires que vous avez quand on construit quelque chose, quand on crée ou on co-crée et avec des normes, des choses très très différentes. Comment on fait pour organiser sa vision finalement du smart sans qu'elle empiète peut-être sur une autre, celle du voisin ou d'autres systèmes?
Alors, effectivement, c'est ce qu'a dit Emmanuel, on arrive avec des principes de base assez simples, finalement, mais qu'on se bagarre pour faire appliquer. Alors, de quoi on parle? La première chose, c'est qu'il faut des systèmes qui soient interopérables. Ça veut dire que mon système, il doit pouvoir discuter avec ceux des autres. Ça, c'est le premier point. C'est bête, mais vous avez aujourd'hui un certain nombre d'acteurs qui ont des systèmes différents. Mais vous parliez d'Apple tout à l'heure, vous ne faites pas ce que vous voulez dans Apple. La deuxième chose, c'est qu'il y a une partie de votre code qui doit être transparent. Vous savez aujourd'hui que ce qu'on reproche aux anglo-saxons, c'est que sur un certain nombre d'algorithmes, on ne sait pas ce que fait l'algorithme. Donc en fait, il n'y a pas de transparence du traitement de l'information. Donc il faut essayer de pousser vers cette transparence de ce que font les programmes. Ensuite, il y a des formats de données. Vous savez, les données, c'est des choses qu'on range dans un fichier Excel, dans des cases. Et il faut qu'on essaye d'inciter les opérateurs à utiliser le même format de données. Parce que si mon opérateur d'électricité 1, il met ses données dans un certain sens, et que mon opérateur d'électricité 2, il les met dans autre sens, quand nous, on essaye de les réconcilier, bien évidemment, on n'y arrive pas. Nous, on investit dans une plateforme qui s'appelle Intent Technology qui permet de faire ça. Mais une fois encore, l'objectif, ce n'est pas qu'il y ait un leader. Je suis tout à fait d'accord. L'objectif, c'est qu'il y ait un certain nombre de plateformes qui puissent être interopérables les unes avec les autres, qui aient une concurrence loyale, bien sûr, avec des formats qu'on partage de plus en plus. Et voilà, je pense que c'est ce que la SBA essaye de faire, notamment. Alors avec un label qui est le label R2S dont parle Emmanuel, qui veut dire Ready to Service. Finalement, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'un bâtiment puisse facilement se connecter et être opéré par un tiers. Et après, j'ai envie de dire, le marché ayant horreur du vide, on verra tout un tas d'initiatives et tout un tas d'acteurs arriver, proposer des solutions. Une fois encore, l'objectif pour tout le monde, je pense, c'est qu'il n'y ait pas une solution leader, mais une vraie concurrence.
Éric Assar, vous êtes vous aussi confronté, j'imagine, à toutes ces florès de solutions aussi. Vous, quand vous concevez, comment on réconcilie justement toute cette multitude de données où j'ai l'impression que ça communique pas encore tout à fait bien.
Non, mais faut surtout montrer les potentialités de ça. C'est-à-dire que c'est une chose, je dirais, ce qui se passe derrière la machine, mais c'est ensuite une autre chose de ce que pourra faire l'habitant. Et en fait, l'habitant, il va pouvoir accéder à des services et il va pouvoir accéder à des espaces. Et ça va devenir des espaces-services. C'est pour ça qu'en fait, il faut concevoir différemment l'architecture, ça veut dire des rapports entre la question des accès, la question de la porosité, la question des espaces eux-mêmes. Et il va falloir penser, oser penser, avec des parts de vide qui vont se remplir. Des vides dans l'infrastructure, mais des vides aussi dans l'espace, pour que demain, j'ai la possibilité de faire quelque chose. Mais par rapport à ce que vous avez dit, on montre que oui, il y a un continuum qui se crée, mais la révolution, elle est aussi, cette révolution de Smart City, Smart Building, pour la couche numérique qui rentre en relation avec la couche physique. C'est-à-dire, vous avez toute cette puissance du numérique, qui est quoi ? Elle est de mettre en relation les individus les uns avec les autres. Demain, je suis intéressé par n'importe quel sujet. Je tape le nom sur Google, je vais trouver des gens qui sont intéressés comme moi. Mais tout ça est très éthéré. Mmh. On ne sait pas où ça se situe. Là, vous aurez la même force, mais vous aurez en plus la force du local. Et donc, on pourra aussi mieux, je dirais, vivre ensemble et plus facilement se connecter, ce qui devient de plus en plus difficile dans les villes. Si vous bougez, si demain vous allez vous installer à Nantes ou à Bordeaux, que vous connaissez personne, vous vous retrouvez, tout le monde bosse, il est difficile de se rencontrer. Demain, il y aura des outils à l'intérieur des immeubles qui nous permettront de nous rencontrer, jouer aux échecs. Vous jouez aux échecs. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un, il a voulu dire, et peut-être que d'un seul coup va se passer quelque chose et on va pouvoir s'entraider, créer des formes d'économie aussi sociale et solidaire locale. C'est donc un outil de la localité. C'est en fait le numérique aide quoi ? Il met en relation des besoins avec des services. Si on prend un Blablacar, le covoiturage existait avant Blablacar. Sauf qu'il y a plein de voitures qui partent d'un point A à un point B. En fait, il y a plein de gens qui ont besoin d'aller de A à B. Et d'un seul coup, on arrive à les mettre en relation. Mmh. C'est la même chose avec les espaces dans la ville. Il y a plein de gens qui en ont besoin. Aujourd'hui, nos appartements sont clos et fermés et de plus en plus petits, à tel point que ça va jusqu'à nous empêcher de rêver. Vous aviez, quand avant vous aviez le grenier, vous aviez la cave, vous aviez des espaces pour projeter des usages que vous ne pensiez pas. Eh bien, il faut réouvrir, il faut relibérer. Et en fait, le numérique peut nous aider à ça. En tant qu'outil, je vais savoir que, dans votre immeuble de bureau, moi, je vais pouvoir utiliser l'espace. Ça tombe bien parce que moi, j'adore jouer de la musique, ouais. Ça fait plein de bruit. Et je vais pouvoir le faire à un endroit où ça gênera personne, etc.
À commencer par une transformation fondamentale qu'on a quand même tous un peu oubliée, c'est que, parce qu'il ne faut pas trop se flageller, il y a 20 ans, on était obligé de rester assis derrière notre bureau. Il y avait un câble à notre téléphone, il y avait un câble à notre ordinateur, on ne pouvait pas se promener. Donc, une des choses qu'a amené le digital, c'est le nomadisme. On redevient un animal qui peut se mouvoir, qui peut bouger. Beaucoup de l'activité des gens dans les bureaux était quand même très sédentaire. Je suis derrière mon poste, je ne peux pas bouger, parce qu'à l'époque, souvenez-vous, nous avions des unités, des UC, on appelait ça. On ne pouvait pas se promener avec son UC qui faisait 10 kilos sous le bras. Là, on va vivre dans un monde où notre téléphone tient dans notre poche, et ce téléphone, il a la même puissance que les ordinateurs d'il y a 10 ou 15 ans. Ça veut donc dire que, pour moi, je suis convaincu qu'on va vers l'ère du nomadisme, et donc ça rejoint ce qui vient d'être dit, à savoir que on va vouloir consommer des espaces différents quand on veut, où on veut. Et c'est ça la vraie révolution. C'est pouvoir aller où je veux, quand je veux, en fonction de mes besoins.
Et travailler différemment, bien évidemment. On peut même faire des émissions de radio avec des gens en plateau et des gens à distance. On n'oublie pas Ella. Ella, Étienne, un commentaire justement sur ce qui vient d'être dit.
Oui, j'écoute avec grand intérêt ce qui a été indiqué. Je pense que il est important, comme on vient de se le dire, de poser la question du pourquoi. On a parlé de l'importance de placer la réflexion par rapport aux citoyens et de la question du standard et de l'interopérabilité. Moi, je voudrais venir ajouter une autre question, c'est celle du comment, et la particularité quand même du numérique appliqué au bâtiment par rapport à une logique B2C comme celle de Blablacar, c'est la multiplicité des parties prenantes et des interlocuteurs, et notamment des parties prenantes publiques et politiques. Derrière la question du pourquoi pour le citoyen, il y a quand même l'enjeu du projet politique, hein, si on se situe à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'un territoire, et donc la nécessité d'embarquer des collectivités territoriales, de manière à pouvoir répliquer sur le terrain. Parce que qui dit adoption d'un standard dit multiplicité et massification des projets sur le terrain. Et donc, ça suppose une co-construction entre les opérateurs privés, les experts au niveau numérique, mais également ces parties prenantes politiques slash publiques, hein, et j'entends par là les directions des services techniques dans les administrations. Et là, il y a encore des progrès à faire en matière de culture digitale et de prise en compte du volet smart. Et puis la deuxième partie prenante qui je pense est important d'avoir à l'esprit, c'est quand même la partie prenante financière, l'investisseur, celui quand même qui est potentiellement, enfin voilà, qui est derrière les projets et souvent très en amont. Et qui tient les rênes du portefeuille. Cette partie prenante-là a aussi il faut porter à son attention tout l'intérêt du smart dans les projets.
Alors, très bonne transition. J'ai envie de vous poser la question, évidemment. Est-ce que le smart, c'est plus cher? C'est-à-dire que, bon, le numérique, il a un coût, on connaît ses usages, sûrement ça va baisser dans le temps, mais François Desgardins, vous qui êtes sur les projets réels, on va dire, et qui revendaient ces solutions, comment ça se passe? Quelle est l'équation financière?
Je vais faire une réponse de Normand, mais je suis Normand.
Alors allez-y, mais parlez bien dans le micro.
Non, alors théoriquement, c'est moins cher. Mais il s'avère que si on est honnête, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher pourquoi? Parce que comme dans toutes les transformations, il y a une phase d'appropriation par l'ensemble des métiers. Les architectes, les entreprises de BTP, les promoteurs, les asset managers, les property managers, les facility managers, les foncières, etc., etc. On a parlé des acteurs publics. Donc oui, temporairement, ce mouvement de transformation, il a un coût. Et objectivement, aujourd'hui, il n'est pas rentable. Maintenant, une fois encore, on peut penser que quand tout le monde sera formé, et voilà, ça prend du temps de former les gens, au contraire, on aura des vraies niches de gains qui vont commencer à arriver sur une capacité à traiter plus vite, une capacité à traiter de manière anticipée, donc faire de la maintenance préventive plus que de la maintenance curative, par exemple, meilleure capacité à gérer la consommation d'énergie, d'eau. C'était un exemple, quand je travaillais à la mairie de Paris, malheureusement, j'avais eu le droit à une page dans le Canard enchaîné parce qu'on avait une fuite sur une piscine et qu'on avait mis plus de 3 mois pour s'en rendre compte. Le problème, c'est qu'on n'avait pas d'objet connecté. Si j'avais eu un objet connecté sur la piscine, bien évidemment que la fuite, je l'aurais détecté de suite et on aurait pu envoyer un technicien pour en faire la maintenance. Et donc, on n'aurait pas eu quelques centaines de mètres cubes, voire plus, d'eau qui serait partie. Donc, écologiquement parlant, ce n'était pas terrible. Financièrement parlant, ça ne l'était pas non plus.
Alors que le capteur ne coûte pas très cher. Parlez-nous de ces gens, par exemple, qui font une maquette BIM, donc Building Infrastructure Modeling, en 3D, mais qui, après, n'ont pas forcément envie de l'entretenir, entre guillemets.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un sujet qui est de faire comprendre à l'investisseur, c'est-à-dire au propriétaire, l'intérêt de sa maquette 3D et ce qu'il pourra en faire, pas uniquement au moment où l'architecte travaille, mais pendant la phase d'exécution et pendant la phase ensuite de gestion. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'architectes qui travaillent en mode BIM. La phase exé, c'est plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de corps de métier pour lesquels c'est pas très simple d'aller mettre à jour la base de données qui est liée à la maquette en 3D. Et puis, alors là, pour le coup, malheureusement, je dois dire que, à part quelques cas, nous, aujourd'hui, on est le plus gros property manager français, on gère 40 millions de mètres carrés. Sur 40 millions de mètres carrés, on a formé tous nos collaborateurs au BIM de gestion parce qu'on voulait être en avance de phase. Malheureusement, j'ai très, très peu de clients qui sont prêts à payer le coût de la maintenance de la maquette. Mmh. Donc il y a quelques grands projets comme les tours du haut qu'on a gagnés, où effectivement on va nous demander de mettre cette maquette à jour, mais ça reste encore trop timide. Peut-être que pour revenir à la Smart City, ça viendra d'abord des territoires, parce que je pense que les villes, elles, ont un vrai intérêt à connaître leur réseau de chauffage urbain, leur réseau d'égouts, leur réseau de lampadaires, maîtriser leur consommation. À l'échelle de la cité, les économies sont beaucoup plus... les enjeux financiers sont beaucoup plus forts.
Une fois de plus, l'idée, c'est peut-être d'investir un petit peu plus au départ pour ensuite avoir un retour sur investissement. Oui, Ella, Étienne.
Oui, si. Pour bien connaître le point de vue de l'investisseur, et je travaille pour pas mal d'acteurs financiers, je pense qu'il y a deux volets qu'il est important d'avoir à l'esprit. Déjà, dans l'équation financière, le fait qu'on va regarder le CAPEX et l'OPEX dans la durée, donc l'investissement de départ et aussi les économies et les gains générés dans la durée. Et ce qui est intéressant avec le smart au-delà de l'investissement initial, c'est notamment les économies et les gains potentiels sur la partie exploitation, comme vient de le décrire François Desgardins. Et puis un deuxième aspect qui est peut-être moins pris en compte aujourd'hui dans la façon d'envisager le smart, surtout c'est la tendance de fond aujourd'hui dans l'univers de l'investissement autour de la finance responsable. Vous avez peut-être entendu parler de la finance durable, de la finance verte, toute la dynamique ESG, environnementale, sociale, sociétale et de gouvernance, où aujourd'hui les investisseurs, pour des raisons de mitigation, c'est-à-dire réduction de leur risque financier, et dans l'équation financière, vous avez toujours la partie retour sur investissement et la dimension risque, prescrivent de plus en plus de critères sur le volet notamment environnemental par rapport aux actifs dans les... On a touché du doigt en introduction le fait que le smart pouvait favoriser la remontée de données, notamment sur des thématiques comme l'énergie et le carbone. Aujourd'hui, ce sont des sujets prioritaires pour les investisseurs qui se situent très très en amont de la chaîne de valeur en matière de création immobilière. Et donc ça, c'est très positif par rapport au fait de répliquer et de massifier des projets smart.
Éric Assard, vous aussi, on vous interpellait tout à l'heure, les architectes, aujourd'hui, est-ce que ça va renchérir le coût d'un projet d'avoir un smart design aussi dès le début, pour cet univers ?
En fait, ça dépend de quel coût on parle. En fait, l'idée du smart va changer nos rapports et nos ratios. Si vous parlez en coût de construction, oui, ça va être un peu plus cher. Mais le coût de construction, c'est pas ça qui est intéressant. C'est le coût global. Le coût global, c'est un peu ce qui a été expliqué avec les OPEX, tout ça. C'est-à-dire le coût sur toute la durée de vie du bâtiment, qui va prendre en compte aussi ses dépenses énergétiques, qui va prendre aussi les recettes qu'il peut avoir de l'extérieur. Aujourd'hui, un bâtiment est presque... Et souvent mono-usage.
Et s'il sous-utilisé, peut, si, on a compris. Hein.
Mono-usage et sous-utilisé. S'il devient plus utilisé, on voit bien qu'on arrive à faire rentrer en fait de l'argent dans le bâtiment. Vous avez donc quelque chose qui est plus efficace. Il faut le regarder sur sa durée de vie, parce que la construction d'une ville, un immeuble haussmannien, il a été construit un moment, ensuite ça dure tout un temps. Et donc il faut vraiment, vraiment changer le prix. Dire construire moins cher, c'est faux. C'est vrai si on dit construire moins cher en coût global. Vraiment, c'est très important d'avoir cette pensée sur la durée qui est une vraie pensée responsable. Et pour ce qui est de la maquette BIM, demain, on vendra un smart building. S'il n'a pas sa maquette BIM qui servira aussi à l'exploitation, donc à des tas d'autres choses, si elle n'est pas à jour, ce sera une moins-value pour le bâtiment, parce que ce sera l'historique du bâtiment. C'est très très riche pour vous d'avoir l'historique. Vous allez mieux savoir comment il fonctionne, comment vous pouvez transformer les espaces, comment il consomme moins d'énergie, etc. Tout ça sera une richesse.
Mais alors on peut se demander, alors bien sûr dans toute révolution il y a des gens que ça gêne, on peut se demander aussi si une certaine opacité aujourd'hui, ou le fait qu'on n'ait pendant longtemps absolument aucune information sur la vie du bâtiment, son historique, etc., est-ce qu'il n'y en a pas qui se disent finalement c'est comme ça, on peut faire comme on faisait avant, et finalement on ne voit pas tellement l'intérêt d'investir une couche supplémentaire dans le bâtiment. François Desgardins, vous avez un exemple notamment sur le fait, si on prend l'industrie aéronautique, s'il y a un problème sur un avion, il est cloué au sol, ça coûte de l'argent et on n'en fait rien, il faut absolument réparer. Un bâtiment qui a par exemple une entrée qui est condamnée, ça n'empêche pas les gens de venir au travail.
Non, alors effectivement, c'est vrai que dans certaines industries comme l'aéronautique ou les voitures, vous avez deux sujets. S'il y a une casse-machine, vous avez potentiellement une dangerosité pour la personne. Il peut y avoir malheureusement des décès si un avion se crash. Et puis la deuxième chose, c'est quand l'avion ne vole pas, il y a mécaniquement juste en face, on sait exactement combien on a perdu d'argent. Même chose pour les puits de pétrole, même chose, enfin, voilà, on pourrait continuer comme ça. Nous, dans l'immobilier, il faut être honnête, c'est un peu moins vrai. Quand j'ai un ascenseur qui ne fonctionne pas dans un actif, ça n'empêche pas les gens de prendre l'escalier. On ne ferme pas l'actif pour autant. Voilà. Donc, bon, je pense que là où les choses vont un peu changer, notamment, c'est que on a vu aussi des investisseurs frileux investir. Pourquoi ? Parce que le marché était tellement tendu qu'en réalité, les gens faisaient la queue pour venir louer leurs actifs. Donc, que leurs actifs soient intelligents ou pas, j'ai envie de dire, honnêtement, ils s'en fichaient un peu, il y avait des preneurs. Là, on peut penser que post-crise, les choses vont un peu changer et que tout le monde va quand même être obligé de se demander quelle est la valeur d'usage que crée mon bâtiment. Et moi, je suis convaincu, notamment, qu'un des sujets de fond pour valoriser un actif, ce sera en réalité le trafic, c'est-à-dire l'usage que les gens font dans le bâtiment. Est-ce que les gens viennent dans mon bâtiment ou pas ? Si les gens viennent dans mon bâtiment, c'est qu'il est attractif. S'il est attractif, c'est qu'il crée de la valeur. Si personne ne vient dans mon immeuble et qu'il est vide, a priori, voilà. Donc, on aura des stratégies d'investisseurs qui, quand même, vont re-regarder tous ces sujets de manière un peu différente, en se demandant, effectivement, comment créer des valeurs nouvelles. Et puis, je suis moins convaincu, on est très engagé dans les démarches RSE chez Nexity, qui reste quand même sur la phase construction, la construction modulaire, la construction hors-site, la construction 3D. Aujourd'hui, on commence à voir les premiers bâtiments à se construire avec des imprimantes 3D. Ces imprimantes 3D, pour les alimenter, il faut des plans. Il faut des maquettes 3D. Sinon, vous ne pouvez pas alimenter les machines-outils. Donc la maquette BIM, dès la phase construction, peut avoir un intérêt pour des usines de production qui produiront des morceaux de bâtiments clés en main. Là où avant, on avait un peu tendance à faire, une fois encore, je répète, un bâtiment unique.
Et comme on crée dans la ville... On a une responsabilité. Il y a une responsabilité, une inscription qui se crée. Et moi, j'obligerais à ce que sur tous les bâtiments, il y ait le nom du promoteur, le nom de l'architecte. C'est-à-dire, il faut pouvoir prendre sa responsabilité. Parce que tout ce qui a été construit à la fin du XXe siècle a pourri toutes les sorties de ville. Et donc, aujourd'hui, il faut reprendre une responsabilité, construire dans des cœurs de ville qui va coûter plus cher. Mais il faut l'accepter, mais pour construire dans la durée. Et il faut pouvoir être fier de ça. Si on fait la différence avec le cinéma, on fait un film pourri, le film pourri, il disparaît pour toujours. Un bâtiment qui est mauvais, il va...
Ça va être la ville. Dans la ville, au cœur de la ville, sur les fronts de mer, et on en connaît tous, malheureusement.
C'est très vrai, hein, dans le bâtiment, il n'y a pas beaucoup de métiers où c'est comme ça. Quand on se plante, c'est pour 50 ans.
Ou plus,
malheureusement. Par rapport à ce qui a été dit, moi je suis assez optimiste, mais je pense que vous quatre aussi, de toute façon, sur le décollage de tous ces sujets smart pour les années à venir, parce que ce n'est pas des nouveaux sujets. Pourquoi ? Parce que ce qui va changer les choses, c'est la valeur verte des bâtiments. Et à partir du moment où cette valeur en fait, va apprécier ou déprécier des actifs en fonction de votre parc, et soyons simples et concrets, où c'est la finance qui l'emporte dans les logiques de décision sur la nature de votre bilan, ça sera une vraie accélération, y compris pour des gens qui doutaient ou qui n'y croyaient pas il y a 10 ans. Voilà. Donc c'est ça qui va en fait faire changer de taille le marché. Et il se trouve que pour décarboner un peu plus son parc ou les futures constructions, il y a plein de solutions, il y a plein d'idées, il y a plein d'approches, il y a plein de partisans de différentes choses. On sait très bien qu'une seule solution ne permettra pas de répondre à l'enjeu. Et parmi toutes ces solutions, il y en a une qui existe avec des technologies qui ne sont pas de la science-fiction, qui existent depuis longtemps, c'est effectivement d'équiper les bâtiments en infrastructure pour mieux piloter, etc. Et c'est, si on regarde le panel des solutions entre je décarbone le matériau de l'industrie du béton, je fais tout en hors-site, je fais tout en bois, etc. Enfin, on pourrait prendre plein d'exemples. Quelles sont les technologies, les nouveaux savoir-faire les plus accessibles qui ont le meilleur rapport quantité de transformation de l'entreprise et de la chaîne d'acteurs et coût de la solution. Je pense que l'équipement des bâtiments, pour arrêter de dire smart, parce que voilà, l'équipement en infrastructure pour faire tout ce que vous venez de dire, a un très bon ROI, je pense, pour atteindre ce sujet de valeur verte des bâtiments.
Un retour sur investissement, et ça, voilà, ça va être peut-être, comme d'habitude, le nerf de la guerre. Emmanuel, François, j'ai une petite question, justement, par rapport à ce qui s'est dit. Comment on se situe en France par rapport à nos voisins européens ? Alors, on a évoqué tout à l'heure avec François, et vous l'avez cité également, l'exemple de Toronto. Est-ce que, voilà, la France est plutôt en avance sur ces sujets, plutôt en retard ? Quels sont les bons élèves en Europe ou dans le monde ?
C'est une question un peu difficile à répondre. Ça dépend sur où on se place. On est en avance dans, on parle de la France, société, cité du, enfin, la ville du, enfin, le pays du smart ou des start-up nation. Effectivement, il y a beaucoup d'innovations. Sur la gouvernance de la donnée, je pense qu'on est en avance. Il y a des acteurs aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se travaillent sur l'operating system du bâtiment, sur l'operating system du quartier. Et aujourd'hui, si vous allez en Allemagne, si vous allez en Angleterre, il n'y en a pas tant que ça. Mmh. Aujourd'hui, ces genres d'acteurs, on en trouve quelques-uns aux États-Unis et c'est tout. Donc là, on est en avance. On est en avance et il faut qu'on garde cette avance. C'est clé. Après, on a un gros défaut en France. On a une vision très centralisatrice. Et là, aujourd'hui, le numérique, c'est pas du tout la culture du numérique, la centralisation. Cette approche girondine. Le numérique, c'est une approche transversale. C'est une approche bottom-up. Mmh. Girondine et non jacobine. Et je donne un exemple. Si on parle de la gestion de l'énergie, on a une gestion aujourd'hui très jacobine de l'énergie avec un acteur et avec la collecte des données par un acteur qui va ensuite opérer la gestion de l'énergie sur le territoire. Eh bien, ça, c'est fini. Ça ne pourra pas marcher. Le citoyen ne l'acceptera pas. Il n'acceptera pas qu'effectivement, il y ait un acteur, quel qu'il soit, qui lui dise « Tu peux pas démarrer ta machine à laver en même temps que tu recharges ton véhicule, en même temps que tu allumes tout ton électroménager, parce que, en fait, ça marche pas. »
D'accord.
C'est lui qui décide. Et c'est la collectivité qui va décider. C'est la communauté locale qui va décider. Et c'est pour ça que je parle de gestion locale des données avec une gouvernance locale. Et là, aujourd'hui, on a tout à faire. Et j'espère bien que la France va être en avance là-dessus. Mais on n'est pas forcément en avance sur ce sujet, parce qu'effectivement, on a cette approche très silotée
en silo.
Et qui remet tellement en cause des modèles économiques qui ont fait des champions de notre industrie, de nos services, de la gouvernance de notre société, de notre État. C'est pas simple. Et donc, c'est le gros défi des prochaines années. Je peux vous dire que c'est pas simple du tout. On va voir. On va voir, mais je reste optimiste, comme le dit Guillaume. Mais je pense que des acteurs comme la SBA et d'autres organisations ont un rôle à jouer.
Bien sûr.
Merci.
François Desgardins joue encore une fois là, chez Nexity. Vous voulez être en pointe, vous allez prendre ce virage et vous investissez beaucoup, notamment dans plusieurs startups avec des exemples, notamment sur les serrures connectées. Ça paraît tout bête, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit, on n'a pas la clé pour entrer dans le bâtiment, comment on fait? Alors qu'on a tous un smartphone dans la poche et on pourrait très facilement distribuer des accès à certaines heures. Racontez-nous ce projet que vous avez. C'est plus qu'un projet, c'est une réalité. Vous avez pendant plusieurs longs mois pour faire ce nouveau système.
Alors déjà, on n'est pas les seuls, hein, bien évidemment. Vous avez les acteurs historiques, les Bricard, par exemple, ou les Somfy, qui font des choses très bien. Vous avez un certain nombre de PropTech, je pense à Welcomer, par exemple, qui fait des solutions assez intéressantes aussi. Nous, l'idée, c'était de se dire, effectivement, dans la veine de ce qu'on a expliqué, que cet homme qui va retrouver sa capacité à être nomade, à vouloir bouger de plus en plus, il allait vouloir le faire de la manière la plus simple possible. Dans un monde où le rapport à l'espace et au temps est quand même chamboulé, puisque nous sommes tous en train de courir après le temps. Alors, quand on court après le temps et qu'il faut attendre 15 minutes dans le hall d'un bâtiment, bien évidemment, on ne comprend pas très bien. Et souvent, ces 15 minutes, on les attend parce qu'il faut que quelqu'un appuie sur un bouton pour ouvrir un portique qui va nous permettre de rentrer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un peu ce que faisaient les aéroports, notamment parce qu'il y a beaucoup de flux dans les aéroports, et on a récupéré, on va dire, une partie de couches logicielles qui nous permet d'onboarder finalement les gens, de leur affecter des droits à distance et de leur diffuser des droits sur leur smartphone. Alors qu'ils sont soit en technologie Bluetooth, soit NFC, soit on a été jusqu'à faire du QR code, et qui va permettre finalement très vite, en temps réel, d'envoyer un droit à quelqu'un. Alors pourquoi on a fait ça? On a fait ça exactement dans la logique de ce qui a été exprimé avant, à savoir qu'un bâtiment pourrait vivre beaucoup plus que ce qu'il ne vit. Pourquoi les bâtiments ne sont pas ouverts le week-end ou la nuit? Ils ne sont pas ouverts le week-end et la nuit, principalement pour des problèmes de sécurité. un, et des problèmes de charge. C'est-à-dire que si je dois payer quelqu'un pour ouvrir la porte, alors même qu'il n'y a que trois personnes qui viennent, très rapidement, on voit que c'est un vrai sujet. Bah, nos serrures connectées demain, elles vont permettre, en temps réel ou quasi temps réel, via des process de sécurisés, de vous affecter un droit qui vous permet uniquement samedi à 19h d'aller ouvrir la porte de tel étage dans tel bâtiment. Mmh. Et donc, je vais recréer de l'usage, je vais recréer de la valeur, parce que, bah, bien évidemment, une fois encore, plus il y a de flux, plus il y a de valeur. Et voilà, donc on a créé une solution qui s'appelle Flex Access, qui permet de faire ça et dont on est convaincu. Alors on la lance dans le tertiaire, on commence à équiper des co-living, des co-working, et ainsi de suite. Mais en réalité, elle ira beaucoup plus loin parce que elle ira dans des hôpitaux, elle ira dans des crèches, elle ira dans des bâtiments publics où on aura besoin de gérer des parcours. On a vu, typique dans, les, dans, la, dans cette période de Covid, que bah, nos hôpitaux français, ils ont un petit sujet, c'est que soit ils sont ouverts complètement, et on sait qu'il y a beaucoup de vols hein, dans les hôpitaux, soit, à contrario, ils sont bunkerisés, et puis on ne peut pas rentrer dedans. Bah, avec ce type de solution-là, on va flexibiliser les parcours des occupants. Donc ça, c'est un exemple, on pourra en citer plein d'autres.
Hein. Oui, je pense notamment... Bah, vous...
Moi, je veux juste rebondir. Allez-y, parce que pour que les parcours ils soient flexibles, tout ça, il faut que l'architecture soit pensée différemment. Vraiment. C'est-à-dire que c'est la question de la salle de réunion qui est accessible. Si elle est au milieu d'espaces privés, on a beau avoir la serrure connectée, jamais je pourrais y accéder parce que je dois traverser des zones qui sont privées. Il faut donc concevoir le bâtiment différemment. Ça veut dire, notamment et entre autres, enfin, il y a des rapports entre, moi j'appelle ça des espaces servis et des espaces servants, qui viennent d'un architecte qui s'appelle Louis Kahn, qui a fait ça au début du XXe siècle, mais qui doivent être démultipliés. Vous avez la notion des accès et des circulations qui doivent être pensées différemment et qui peuvent être multi-usages. Donc vraiment, oui à tout ce qu'il y a, mais cette façon de concevoir le bâtiment doit être différente. Autrement, vous ne tirez pas toutes les potentialités de ces espaces.
Est-ce que ça veut dire que demain, attendez une petite seconde.
Non, mais juste.
Oui, Emmanuel, allez-y.
Non, juste, c'est parce qu'en fait, cette notion d'accès est clé, et on n'aura pas de bâtiment ni de ville intelligente si on n'a pas une interopérabilité sur les accès. Une interopérabilité, mais sécurisée. En fait, qu'importe, François a cité des noms de sociétés, mais en fait, qu'importe, l'accès doit être ouvert à tout le monde, mais sécurisé. Et c'est le digital qui va le sécuriser. C'est ça qui est important. Et il y a une commission qui démarre, justement, qui va être pilotée par Continental. Vous allez me dire, pourquoi Continental? Parce que c'est le leader de l'accès dans la voiture, sécurisé. Bien, Continental va prendre en considération cette commission, l'accès. Mais c'est l'accès dans les bâtiments, l'accès à tous les services dans les bâtiments et la ville. L'accès, par exemple, à des bandes de recharge rapides, par exemple. Eh bien, ça, il faut que ça soit sécurisé. C'est ce grâce à ça qu'on va avoir une utilisation, une optimisation, comme le disait Eric, des espaces, des bâtiments, de la mobilité, passer de bâtiments qui sont utilisés que 30% du temps à 50 ou 60% du temps, de véhicules qui seront utilisés aujourd'hui 5% du temps à 50 ou 60% du temps. Mmh. Cette notion d'accès est fondamentale. Et tu l'as dit, Eric, effectivement, ça nécessite de s'appuyer sur des infrastructures aussi sécurisées.
Et là,
Fabrice, si je peux, si je peux juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, et notamment la question de la valeur. Alors, on a mentionné la valeur verte. Alors, en fait, il se trouve que sur les 10 dernières années, la valeur verte, elle n'a pas été vraiment prouvée, dans le sens où le fait de payer plus cher un actif vert et reste encore à démontrer. Chez Green Solutions, on a notamment sorti la première étude. Sur la question qui s'appelle le baromètre de la certification environnementale, où on avait fait un travail justement de corrélation de données par rapport à ça. Il y a un terme aujourd'hui qui est utilisé par les investisseurs, c'est celui d'écote grise. C'est-à-dire que si, sur le volet environnemental, les actifs ne sont pas aux normes, ne correspondent pas aux attentes du marché, il y a un effet décote sur les actifs et donc une baisse au niveau de la valorisation. Et la valeur en immobilier, finalement, c'est quoi? C'est l'impact sur le loyer ou l'impact sur le prix de cession selon la perspective qu'on perçoit. Et au niveau numérique, on peut appliquer le même raisonnement, de se dire que dans l'équation financière, à nouveau simplifiée au maximum des investisseurs, composée du retour sur investissement, donc l'élément de création de valeur et le risque, parler de décote numérique. Si les actifs ne sont pas correctement équipés, ne correspondent pas aux usages de demain, aux attentes. Mais revenir aussi à cet élément-là pour que derrière, il y ait les investissements qui suivent.
Bien sûr. Guillaume, c'est vrai que c'est clé, hein, pour reprendre le mot, par les accès justement. Toutes ces notions, on voit que, parce que le temps file, il nous reste quelques minutes malheureusement. Voilà, comment on peut déjà faire une synthèse de ce qui vient d'être dit? Qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est passionnant parce qu'en fait, on sent bien que tous les standards du secteur du bâtiment et de la construction des 20 dernières années vont être un peu modifiés, voire chamboulés. Que ça soit dans la façon de calculer un coût, de l'apprécier, où ça commence, où ça s'arrête, une expérience. Enfin, je ne vais pas refaire en 5 minutes tout seul ce qui a été dit par nos invités pendant une heure. Mais... Donc ça change tous nos critères, tout ce qu'on a appris dans les écoles, dans les entreprises, etc. Donc c'est ça qui rend le sujet passionnant, parce que c'est assez intriguant, et puis on sent bien derrière ça que c'est un nouveau monde qui s'offre à nous. Donc moi, à titre personnel, je suis ravi de vivre ça, et à titre professionnel, en fait, d'avoir la chance de le voir avec une vision très large par mon métier, avec la taille en fait de Batimat et du mondial du bâtiment. Il y a 20 ans, ces acteurs étaient sur un petit secteur dans Batimat, probablement. Aujourd'hui, je serais bien incapable de vous dire dans quel secteur ça se trouve. Il y en a partout. Il y en a dans tout le monde de la menuiserie, de la fermeture, de la gestion de la lumière, du confort, et ainsi de suite. Évidemment, dans l'univers du chauffage, de la clim, et ainsi de suite. Donc, et c'est une bonne nouvelle, parce que finalement, le salon, c'est pas autre chose qu'une photo à l'instant T de l'état du marché, de ce qui, quels sont les nouveaux standards, qu'est-ce qui va se passer après, etc. C'est à ça que c'est un salon, en quelque sorte. Et donc, on voit bien que c'est comme une approche au sens positif, tentaculaire, en fait, de ce monde du smart, de ces nouvelles technologies. Certains, c'est en intégrant juste des composants, d'autres, c'est en allant jusqu'à des vrais services complémentaires qui s'intègrent partout. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on est effectivement en train de sortir de l'approche des systèmes fermés, propriétaires, je prends tout, c'est qu'à moi, et prenez mon langage, et voilà, et la valeur qui va avec. Ça, on est en train d'en sortir, c'est très récent, hein. Même dans les acteurs qui ont été cités tout à l'heure, ils ont abandonné la notion de système propriétaire il y a 24 mois, hein, pour la plupart. Donc ça bouge, donc moi je suis très optimiste.
Très bien, on va faire un petit tour de table pour conclure. Éric Cassard, Arken Space, peut-être pouvez-vous nous parler de certains projets qui sont en cours, que vous avez justement, et qui font le lien avec ce qu'on s'est dit sur ces bâtiments de plus en plus intelligents, connectés, et qui recréent du lien, si on vous a bien compris.
Oui, je travaille sur un smart îlot, quelque chose de relativement grand, qui fait 16 000 m², qui est mixte, qui intégrerait du numérique et qui permettrait un petit peu tout ce qu'on dit aujourd'hui. Voilà, et c'est sur le territoire de l'Épamarne.
D'accord. Donc, un établissement plutôt public.
Pour l'instant, c'est pour un établissement public. Ensuite, il y a la recherche des investisseurs, de l'endroit plus précisément où ça pourrait prendre place. Et l'idée, ce serait de faire un bâtiment qui soit une expérimentation, parce que ça a été dit, tout ça bouge, toutes les lignes. Et donc, on a beau être concepteur, on l'a parlé, les accès, mais je vous parlerai aussi de diversité, d'appropriation, de tout ça. Ça change le mode de vie à tel point que je pense que pour aller vers une réussite, il faut réussir à faire une expérimentation et se donner pendant 5 ans une expérimentation sur un endroit pour ensuite pouvoir tirer les bonnes conclusions et avoir plus de données qui permettront d'avoir des bilans et des ratios qui soient un petit peu plus précis et ce qu'aiment les investisseurs.
Bien sûr.
Ce qui permettra le déploiement.
Il faut créer un pilote, hein, comme toute bonne série.
Exactement.
Ça démarre par un bon pilote. François Desgardins pour Next City, où on en est? Est-ce qu'il y a un projet phare en ce moment sur lequel vous travaillez? Ils sont nombreux.
Oui, alors des projets phares, on en a pas mal, effectivement. Comment c'est pas typique, le siège qu'on fait pour NG et la Garenne Colombe. Mais moi, je pense que, pour conclure, en tout cas, que le numérique réussira s'il nous aidera à mieux vivre ensemble. C'est la raison d'être qu'on a choisi chez Next City, vivre ensemble. Et je suis assez convaincu que c'est bien le green qui va le pousser avant tout le reste. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la ville, demain, si on a des solutions qui nous permettent de vérifier, est-ce qu'on est en train de créer des îlots de chaleur? Est-ce qu'on est en train de détériorer la faune et la flore? Est-ce qu'on est en train de toucher par effet de bord aux nappes phréatiques? Est-ce que... Là, il y a quand même tout un champ très immédiat, et on voit bien l'urgence climatique qui est la nôtre, qui fait que, honnêtement, je crois que chez Nexity, il n'y a plus un promoteur aujourd'hui qui part sur le terrain en se disant qu'il peut oublier que ce sujet-là est au cœur de notre métier. Donc je pense que le plus gros effet de levier viendra de là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plein d'autres, hein, mais il viendra de là.
Alors je pense que la patronne de Green Solus sera complètement d'accord avec vous. Ella,
Étienne. Alors oui, alors là je ne pourrais qu'abonder dans ce sens. Moi ce que j'ai retenu là des échanges très riches qu'on a eu ensemble ce soir, c'est d'abord le fait de se poser les questions clés, celles du pourquoi, hein, quel est le projet derrière les expérimentations conduites sur le terrain et si ces expérimentations peuvent se transformer en méthode réplicable, et ensuite le comment à travers une co-construction collective, notamment la partie prenante publique sur laquelle on s'est peu attardé, mais qu'il ne faut pas oublier dans le process, et surtout la partie prenante financière. Et j'en profite, puisqu'on parle d'actualité, si la perspective ESG et les préoccupations des investisseurs spécifiquement pour les actifs immobiliers vous intéressent, il se trouve que nous présentons demain matin à 10h avec mon équipe et l'Institut de l'épargne immobilière et foncière les résultats de la première étude sur l'investissement responsable dans les actifs réels en Europe. Et on couvre quand même des actifs sous management à hauteur de 800 millions d'euros. On a interviewé et on a réalisé une étude auprès des plus gros investisseurs internationaux. Donc ça peut, voilà, c'est très complémentaire par rapport à ce qu'on vient de se dire, et ne pas oublier que c'est quand même eux qui tiennent les rênes du portefeuille et donc des projets en amont. Mmh.
Il ne faut pas les oublier, en effet. Emmanuel, François, l'actu de la SBA, vous continuez bien sûr à éditer les différents référentiels, à travailler sur les sujets avec l'ensemble des parties prenantes.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on essaie d'aller vite, parce que comme vous l'avez dit, les enjeux sont là. Et on n'a pas le choix, on n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre. Hein. Je lis actuellement le livre de Bill Gates, hein, qui dit on doit passer de 51 milliards d'émissions carbone par an à zéro, tout de suite. Donc, c'est des changements majeurs. On n'a pas le choix. Et le numérique est un outil pour passer, pour mener cette transition. Le numérique est au cœur de toutes les transitions. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la SBA a un rôle très fort à jouer pour pousser cette infrastructure numérique, pour pousser ce numérique, mais un numérique responsable, un numérique sécurisé, un numérique maîtrisé. Et c'est notre enjeu. Et aujourd'hui, on voit que petit à petit, il y a des bâtiments qui suivent le cadre de référence et non pas le label. Hein, parce que François a parlé de label. La SBA n'est pas là pour vendre un label. Elle est là pour pousser un cadre de référence, un indicateur. Et aujourd'hui, les acteurs, que ce soit des bailleurs sociaux, des foncières, disent grâce à R2S, ces bâtiments vont être évolutifs, vont être résilients, vont être évolutifs. On a aujourd'hui des services, mais on va pouvoir en apporter d'autres, certains qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Et ça, je trouve ça déjà un progrès énorme. Et mon objectif aujourd'hui, c'est que nos gouvernants, nos politiques comprennent que le premier enjeu, c'est de porter cette infrastructure numérique à l'échelle des bâtiments, à l'échelle des territoires, tout de suite, dans les prochaines années. On ne doit pas attendre. C'est cette infrastructure, c'est ce que je disais tout à l'heure, toutes les transitions, le numérique est au cœur de toutes les transitions. Eh bien, il faut déjà déployer cette infrastructure numérique. Comme il y a 120 ans, on a déployé le réseau électrique. Mais par contre, on n'attendra pas 40 ans. C'est 5 ans maximum. Et c'est pas qu'en France, c'est en Europe, c'est dans le monde.
Bien sûr.
Aujourd'hui, il y a des acteurs ou des pays qui l'ont compris, comme la Chine. Mais il est hors de question que ça soit que la Chine qui soit à l'origine de ça. Il faut que la France, il faut que l'Europe soit au cœur de cette transition. Et pour ça, effectivement, il faut que nos politiques le comprennent. Il faut qu'effectivement, le numérique soit pas un ministère à côté, mais le numérique soit dans chaque ministère.
Exactement, on est bien d'accord. Guillaume, un dernier commentaire.
Bah oui, Emmanuel a raison, c'est un projet politique. Ce qui n'est pas un gros mot, hein.
Projet de société,
oui, tout à fait. Parce que c'est ça qui influence un peu la société de demain, quoi qu'on en dise, toujours.
Exact.
Donc voilà, donc, enfin, je ne vais pas relancer une question ouverte, parce que... Mais oui, c'est quelle société on veut.
Donc, c'est de la politique.
C'est pour ça que ça nous touche tous.
En effet. Et je pense que le numérique va nous aider. Alors, j'ai compris qu'on ne parlait plus tellement de smart. Il va falloir trouver un nouveau mot. Voilà. Bâtiment intelligent, bâtiment connecté. Et là, vous avez une suggestion ?
Non, j'allais juste dire que le monde entier s'est quand même accordé sur le smart. Donc, ouais. Si on se met à utiliser d'autres mots, ce serait dommage de sortir de la scène internationale, de la scène européenne quand même. C'est quand même l'intérêt d'un langage d'un langage partagé, comme les cadres de référence.
Très bien. Bon, alors, regarde Smart. Merci. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur ce Smart City, Smart Building, Smart Home. Un grand merci à l'ensemble de nos invités. Emmanuel François, le président de SBA Smart Building Alliance for Smart Cities. Ella Etienne, directrice générale de Green Solus et vice-présidente sur le pilier Smart City SBA. François Desgardins, merci à vous, secrétaire général de Nexity Entreprise Solutions. Et Eric Cassard, fondateur et architecte principal d'Arcane Spaces. Voilà, tout l'ensemble des sujets à retrouver aussi sur votre site, extrêmement intéressant. Merci à vous, Guillaume
Loiseau,
donc le directeur de Batimat et du Mondial du Bâtiment.
Merci.
Quant à nous, merci également à la technique Jason Pinheiro qui a réalisé cette émission. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro de En attendant Batimat.
En attendant Batimat, le salon des professionnels de la construction du 3 au 6 octobre 2022, porte de Versailles à Paris, une émission à réécouter et télécharger sur le site Bati Radio et sur toutes les plateformes de streaming.